Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça s'est pas du tout passé comme ça. T'es un peu confuse en ce moment. Tu inventes. J'ai dit exactement le contraire. Non, non, ça n'a jamais existé. De toute façon, tu n'étais pas là. Brouillard. Évaporation. C'est ce qui se produit quand le langage change les faits. Quand l'art oratoire subtilise et modifie la teneur des messages. Quand les mots et les récits, armes silencieuses, sèment le trouble et la confusion, effaçant patiemment l'autre. Ce phénomène porte aujourd'hui un nom tiré d'un film ancien. Gaslight. En 1944, le réalisateur américain George Cukor réalise le film Gaslight avec Ingrid Bergman et Charles Boyer, adapté de la pièce éponyme de 1938 de Patrick Hamilton. Le film raconte le calvaire de Paula. Son mari la persuade qu'elle est folle en baissant progressivement la lumière des lampes à gaz, gaslight, pour installer l'obscurité dans la maison et dans son esprit.
Gregory, are you trying to tell me I'm insane?
It's what I'm trying not to tell myself.
But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting and suggesting for months now, ever since...
Since what?
Since the day I lost your brooch. Yes, that's when it all began. No, it began before that. The first day here when I found that letter.
What letter?
The one I found among the music from that man called Bauer. Sergius Bauer, yes, I remember.
Yes, you're right. That's when it began.
Yes.
I can see you still, standing there and saying, look, look at this letter, and staring at nothing.
What?
You had nothing in your hand.
What?
I was staggered. But I didn't know then how much reason I had to be.
I don't know. What reason?
I didn't know then about your mother.
What about my mother?
Your mother was mad.
Gaslight. Le mot pourrait être traduit en français par décervelage. La notion désigne aujourd'hui le fait de faire croire à des fins personnelles, à des gens sains d'esprit, qu'ils sont fous. En 2023, l'écrivaine et philosophe Hélène Frappa publie l'essai « Gaslight » ou « L'art de faire taire les femmes », dans lequel elle source l'origine de ces comportements et les étend au champ collectif, politique et sociétal. Le film « Gaslight » a été élu par la Bibliothèque du Congrès américain comme l'un des films qui a marqué l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire pas juste un chef-d'œuvre, mais un film qui fait date dans l'histoire de la pensée et l'histoire politique. La chose intéressante pour Hélène Frappa est qu'il articule une manipulation conjugale, le mariage traditionnel dans un cadre chrétien, hétéronormé, où la norme est que monsieur va monologuer, détenir le pouvoir sur le langage, avec un mouvement de fond de la société. Le film sort en 1944. George Cukor, réalisateur juif hongrois, pressent et observe quelque chose dans la société, des mouvements non exposés qui aboutiront à la guerre mondiale. La manipulation et le sadisme du mari à la maison disent ainsi quelque chose de ce qui est en train de se passer derrière les murs, qu'on distingue mal. Le nazisme qui arrive. Toute la question porte ainsi sur le langage, la dénaturation, la défiguration, la destruction du langage humain. Selon la philosophe, aujourd'hui, Donald Trump incarnerait cette tendance à l'échelle géopolitique en détruisant la notion même de vérité, ce que Hannah Arendt appelait les vérités factuelles, et introduisant dans le discours une forme de négationnisme. Comment Trump peut-il en effet arriver à dire pendant son discours d'investiture qu'il fait hyper beau alors qu'il pleut à torrents ? Un conseiller a la réponse. Je pense que, parfois, nous pouvons être en désaccord avec les faits. Et je laisse la parole à Hélène Frappin.
Gaslighting, en anglais, vient du film de George Cukor, Gaslight. Gaslight, c'est l'éclairage à gaz d'une maison. Son film, Gaslight, Antise en français, qui date de 1944, se passe à l'époque victorienne, donc dans une demeure à Londres, éclairée au gaz, dans lequel le mari d'une femme, Ingrid Bergman, dans le film, va baisser progressivement les lumières de la maison pour faire croire à cette femme que la lumière peu à peu baisse dans sa propre raison. Donc c'est une technique de manipulation dans laquelle originellement un mari fait croire à son épouse qu'elle devient folle, qu'elle est folle, qu'elle a tendance à perdre les objets, qu'elle oublie tout. Pourquoi manipulation ? Parce que par exemple, il va lui offrir un bijou tout en subtilisant le bijou pour lui dire qu'elle l'a perdu. Donc c'est une forme de numéro de prestidigitation qui consiste à subtiliser la raison d'une femme et peu à peu même son existence, puisque doutant de sa propre raison, elle en vient à douter de qui elle est et d'elle-même. Dans mon livre, j'élabore un concept à partir du film de George Cukor, qui dans les années 60 aux États-Unis est devenu un outil d'élucidation de la psychologie et de la psychanalyse états-unienne, et puis ensuite qui s'est popularisé énormément aux États-Unis lors de la première campagne pour l'élection de Donald Trump à la présidence, au moment où les analystes et les journalistes ont compris que Donald Trump gaslightait l'Amérique. Donc qu'est-ce que ça signifie gaslighter l'Amérique ? Ça signifie opérer une perversion de la notion de vérité, de la notion même de réalité, de ce que Hannah Arendt appelait les vérités factuelles, les nier. Donc arriver à une forme, la forme extrême, qui est une forme de négationnisme. Et donc à partir de ce film de George Cukor, qui donc est sorti à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte du nazisme, on peut voir comment cette notion qui originellement concerne l'histoire collective des femmes peut devenir un outil d'élucidation, de forme, de perversion du langage humain, d'une manière de rendre fou en fait un être humain, en le faisant donc douter de sa raison, et puis d'une forme, enfin c'est un outil qui est au service de l'oppression en réalité de l'être humain.
C'est le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis les hommes se tirent dessus. C'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
L'essai d'Hélène Frappa part ainsi du silence imposé de longue date aux femmes pour ouvrir sur le caractère sociétal et politique du phénomène. Je vous partage ici quelques extraits de ce livre qui l'éclaire en partie. La première femme humaine et fatale de la mythologie apporte dans ses bagages une boîte mystérieuse que Zeus lui interdit d'ouvrir. Mue par la curiosité dont les dieux l'ont pourvue, Pandore ouvre la boîte et libère tous les maux, M-A-U-X, de l'humanité. Sauf l'espérance, plus lente à s'échapper, qui demeure captive. Et l'histoire se répète. Barbe Bleue offre à sa femme un passe-partout en lui défendant de passer partout. Le gaslight est un crime parfait, à condition de convaincre la victime qu'elle n'a jamais existé et de convaincre que la victime n'a jamais existé. C'est donc un crime contre la logique. Le raisonnement du gaslighter est le suivant. Tu as perdu la broche que je t'ai offerte. Et je ne t'ai jamais offert de broche. La broche que tu as perdue n'existe pas. Le gaslight est une stratégie, une tragédie qui vise à réduire une femme au silence en détruisant les mots et les pensées qui sortent de sa bouche, mais aussi en étouffant sa voix. Ainsi, dans le film, le mari réduit-il progressivement la puissance sonore de sa femme jusqu'au silence, telles les lampes manipulées dans la maison jusqu'à l'extinction. Pourquoi le gaslighter ressent-il le besoin d'empêcher une femme d'émettre des sons ? Ça, c'est une vieille histoire. Le son a un genre, comme l'explique la poétesse helléniste Anne Carson. Mettre une porte sur la bouche de la femme a été un projet crucial de la culture patriarcale de l'Antiquité à nos jours. Sa tactique principale consiste en une idéologie qui associe le son féminin avec la monstruosité, le désordre et la mort.
Chut.
Aristote fut le premier à théoriser que la voix au perché de la femme prouve son infériorité et son impuissance. Il postule la supériorité des sons graves et des voix basses sur les voix aiguës. Le son grave de la voix semble être d'une nature plus noble, et dans les chants, la basse semble supérieure aux voix moyennes. La gravité du son est une certaine suprématie. Quel son insupportable crache la bouche des femmes ? La liste est longue. Les héroïnes antiques, qualifiées de folles, furies, sorcières, bêtes furieuses, bêtes curieuses, dès lors qu'elles font entendre leur voix. Gémissement de la gorgone qui glace le sang. Voix atrocement aiguë des furies, voix mortelle des sirènes. Dangereux ventriloquisme d'Hélène dans l'Odyssée. Incroyable babil de Cassandre et redoutable raffut d'Artémis et... Il y a aussi le bavardage de la nymphe Écho, qui est décrite par Sophocle comme la fille qui n'a pas de porte sur la bouche.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ah, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué, bloquer dans leur filet. Mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir. L'engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau, parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Passer silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Dans plusieurs contes de la culture orale populaire française, on rencontre un motif qui résonne fort avec ce sujet. Un motif par lequel le diable interfère à plusieurs reprises dans une communication importante et subtilise les messages pour en transformer les contenus. Ainsi, dans certaines versions du conte « La jeune fille sans main », le diable va intervenir à plusieurs reprises dans le parcours de la jeune fille. Ne pouvant l'enlever comme il le souhaitait à ses parents, il lui fait d'abord couper les mains. Puis, beaucoup plus tard, dans le conte, tandis que l'héroïne a cheminé, qu'elle a épousé un roi et qu'elle reste au château, enceinte, tandis que son époux, le roi, est parti guerroyer, elle va donner naissance à son enfant. La mère du roi, qui veille sur elle, envoie alors à son fils un messager pour lui apprendre la bonne nouvelle, mais en chemin, le messager se sent fatigué à l'approche d'une rivière, il s'endort. Le diable sort alors de derrière un arbre et subtilise au message un autre, disant que la reine a donné naissance à un enfant mi-homme, mi-chien. Horrifié, le roi envoie néanmoins un billet dans lequel il exprime son amour pour la reine et toute son affection dans cette terrible épreuve. Et le jeune messager parvient à nouveau au bord de la rivière et s'endort. Et là-dessus, le diable change le message contre un autre qui dit « tuer la reine et son enfant ». La vieille mère, bouleversée par l'ordre émis par son fils, envoie un nouveau messager pour avoir confirmation. Et les messagers font l'aller-retour, s'endorment et le diable intensifie le mensonge « garder la langue et les yeux de la reine pour me prouver qu'elle a bien été tuée ». La vieille mère, ne pouvant supporter de tuer la jeune reine, sacrifie une biche, prend la langue et les yeux de la biche et les tient en lieu sûr. Puis, elle aide la jeune reine sans main à attacher son enfant sur son sein. Elle lui met un voile et lui dit qu'elle doit fuir pour avoir la vie sauve. Dans son livre « Femme qui court avec les loups », la conteuse psychanalyste jungienne Clarissa Pinkola Estes livre une profonde analyse de ce motif, je vous en partage quelques miettes infimes. Dans Barbe Bleue, le prédateur naturel coupait net idées et sentiments et actes de la femme. Ici, c'est un aspect du prédateur plus subtil et beaucoup plus puissant qu'il faut affronter dans la psyché et de plus en plus au quotidien dans nos sociétés. La jeune fille sans main révèle comment le prédateur peut dénaturer les perceptions humaines et l'entendement qui sont essentiels pour développer une dignité morale et une faculté de réaction. Le diable épargne la vie de la femme mais tente d'éviter qu'elle ne renoue avec les connaissances profondes de sa nature instinctuelle qui inclut une justesse d'action et de perception. Aussi, lorsque le diable modifie le contenu du conte, on peut y voir en un sens le rapport véridique d'un événement historique réel particulièrement pertinent pour les femmes modernes qui effectuent le travail psychique de la descente et de la prise de conscience. Le conte de fées nous montre que le prédateur est attiré par la conscience, la réforme, la liberté toute neuve. On distingue ainsi le prédateur dans d'innombrables schémas narratifs. La méthode utilisée va du dénigrement des objectifs de la protagoniste aux punitions injustes, en passant par le langage peu flatteur, les jugements aveugles et les proscriptions. Ce sont là les moyens par lesquels le prédateur transforme les messages porteurs de vie en messages de mort. Mais le diable a beau mentir et tenter de subtiliser des messages mortifères et emplis de méchanceté et de jalousie aux messages concernant la vraie vie d'une femme, la mère du roi voit ce qui se passe. Elle ne va pas bâillonner sa belle-fille, ni l'empêcher de dire sa vérité. Au lieu d'aller dans le sens du prédateur, elle le surpasse en finesse. C'est ce qu'apprennent les femmes quand elles creusent jusqu'à leur nature instinctive. Elles apprennent à chercher le prédateur. Elles apprennent ses tours, ses déguisements, sa façon de penser. Elles apprennent à lire entre les lignes des messages, des injonctions, des attentes, des habitudes qui ont été perverties et ne sont plus authentiques. Alors que le prédateur émane de notre milieu psychique, de notre environnement culturel ou des deux, elles ont suffisamment de ruses pour pouvoir le prendre de front et faire ce qu'il faut. Nous avons ici une jeune femme sans aucune prise sur le monde puisque le diable a ordonné qu'on lui coupe les mains et maintenant, celui-ci réclame d'autres amputations. Il veut qu'elle ne puisse plus parler vrai ni voir juste. C'est bien là l'œuvre du démon, mais sa demande nous octroie une pause importante. Car ce qu'il peut voir se produire, ce sont les comportements mêmes dont les femmes portent le fardeau depuis la nuit des temps. Il veut que la vie obéisse à ses dogmes. Ne voit pas la vie telle qu'elle est, ne comprend pas les cycles de vie et de mort, ne parle pas de toutes ces choses sauvage.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée a cappella. Sur le piano, si la seule vue du suffit à clarifier ma voix. L'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids. OGMO. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Si parfois je me délecte avant de dévorer ma proie, que je lâche un peu de au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau.
Que se passe-t-il alors quand le conjoint garde une mentalité de possesseur, mais qu'il n'a plus le droit avec lui et qu'il a face à lui une partenaire disposée à être autonome et à voir respecter ses besoins et ses désirs? Ce décalage dans les relations conjugales, on le trouve dans toutes les configurations de relations, et notamment dans les rapports gouvernants, gouvernés. Alors que le gaslighting interpersonnel déforme le sens de soi et de la vérité d'un individu, le gaslighting politique cherche à déformer ou réécrire la réalité commune d'une population. Il ne s'agit pas seulement d'une tactique, mais d'une stratégie de domination. Le mécanisme psychologique est le même, nier, détourner, déformer. Mais la portée est beaucoup plus large et les conséquences plus importantes. Lorsque les dirigeants politiques ou des institutions minimisent les atrocités, nient des faits qui ont été clairement documentés ou accusent les dissidents d'être dérangés, ils ne font pas que de la propagande. Ils mènent une guerre contre la perception du réel elle-même. L'objectif est la déstabilisation, pas la persuasion. Le gaslighting érode la capacité d'une population à faire confiance à son propre jugement, sapant ainsi les outils mêmes que les citoyens utilisent pour donner un sens au monde. Il crée une société dans laquelle la vérité est fragmentée et dans laquelle les individus incertains de leur équilibre deviennent plus vulnérables aux récits autoritaires. En accablant et en désorientant ainsi une population, on la rend beaucoup moins susceptible d'agir, d'exprimer des critiques, de résister. Alors comment résister? Hélène Frappa, dans son essai, propose l'ironie. Le film Gaslight se clôt sur un retournement. Le mari démasqué, se retrouvant ligoté à une chaise par la police, dans un seul à seul, tente le tout pour le tout et supplie alors sa femme de l'aider en allant chercher un couteau dans un tiroir. Cette dernière, qui a enfin démasqué les comportements de son mari, va alors utiliser l'ironie comme arme pour le retourner. Elle ouvre le tiroir et il n'y a pas de couteau. Je ne vois pas de couteau. Si, je l'ai mis là ce soir. Il n'y en a pas. Tu as dû rêver que tu le mettais là. Et puis elle brandit le couteau. Qui n'existe pas. Es-tu en train de suggérer que c'est un couteau que je tiens dans mes mains? Es-tu devenu fou, cher mari? Ou bien c'est moi qui suis folle? Non, non, tu n'es pas folle. Si, je suis folle. Ma mère aussi était folle. Non, Paula, c'était un mensonge. Allez, aide-moi. Et la jeune femme, sur ces mots, va chercher le policier en disant « Emmenez cet homme ». Voilà ce qui est beau. Nous apprend la scène finale de Gaslight. Lorsque la peur tombe, elle ne revient jamais. Bien sûr, la nuit sera longue et aussi le combat pour l'émancipation, et nombreux seront les obstacles matériels et idéologiques et institutionnels dans la lutte contre la violence et l'oppression. Mais cette peur, qui consiste à intérioriser le pouvoir de vie et de mort de l'oppresseur, individu ou pouvoir, cette peur-là ne reviendra pas.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah,
tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors.
La la.
Mais...
la 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la.
Non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un
écoute,
peu.
Écoute, oui. Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion,
ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes.
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal. La 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 la.
Mais alors, on va tomber.
La la la. Mais
du quatrième
oui,
étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la
la la la la la la la la la la la.
La 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 la, quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc. Ouais. On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tire.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais.
Pour cette émission, je suis allée piocher d'infimes fragments dans le passionnant ouvrage « Gaslight ou l'art de faire taire les femmes » d'Hélène Frappa. Et je vous invite vivement à y plonger si le sujet vous intrigue. Vous retrouverez toutes les autres références, textes et musiques sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire des Marais pour la réalisation. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio La et sur votre radio associative préférée.